journal d'Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. L'Europe va-t-elle affronter sa pire crise des réfugiés depuis le début du siècle? Ils sont déjà près de 700 000 Ukrainiens à avoir fui leur pays. À ce rythme, il pourrait être 4 millions d'exilés au total. L'ONU lance un appel à l'aide humanitaire, vous l'entendrez. En France, les initiatives solidaires se multiplient. Journée spéciale sur Inter. Nous serons dans ce journal aux côtés des scouts ukrainiens de Paris. Eux aussi sont de plus en plus nombreux, les soldats russes en Ukraine. De nouvelles troupes sont arrivées ce matin par avion à Kharkiv, la deuxième ville du pays, épicentre des combats. Encore une fois, on fera le point. Tandis qu'à Washington, Joe Biden s'en prend violemment à Vladimir Poutine. L'Ukraine, la réponse des Occidentaux, vous en parlez aussi avec vos invités à 8h20, Jérôme.
Avec le secrétaire général adjoint de l'OTAN, Camille Grand, et le spécialiste des questions de défense et de stratégie, Pierre Servant, tous deux invités du grand entretien de la matinale. Vous posez dès à présent vos questions au 01 45 24 7000.
Au sommaire aussi, le trafic de médicaments amplifié par la crise Covid. La pollution plastique peut être bientôt encadrée par un traité international. Et le retour de Batman au cinéma. Mais un Batman bien déprimé dans le nouveau film de Matt Reeves.
France Inter.
Se terrer dans un bunker ou prendre le risque de partir sur les routes, voilà le dilemme des Ukrainiens au 7e jour d'invasion russe. Certains ont tranché, 680 000 civils ont déjà fui le pays, augmentation exponentielle selon les Nations Unies qui redoutent la plus grave crise de réfugiés en Europe depuis le début du siècle. Alors l'ONU lance un appel humanitaire mondial, il va falloir de l'argent, beaucoup d'argent. Et rapidement, à Genève, Jérémy Lanche.
L'ONU demande en urgence 1,7 milliard de dollars, une somme considérable, surtout quand on sait que plus de la moitié devrait être consommée en moins de 3 mois. En tout, les Nations Unies estiment que ce sont 12 millions de personnes qui vont avoir besoin d'une assistance humanitaire si les combats continuent. Comme souvent, les enfants sont les premières victimes, rappelle le porte-parole de l'UNICEF, James Elder, actuellement dans l'ouest de l'Ukraine.
On sait que des enfants ont été tués, on sait que des milliers sont en danger. Et c'est atroce, mais on sait que d'autres enfants vont mourir ou être blessés si les combats continuent. Et c'est le cas, puisqu'il y a une escalade en ce moment dans les villes. Donc on va encore voir des enfants qui sont séparés de leur famille, et même des papas qui tendent leurs enfants par-dessus la frontière à des gardes polonais.
Et le nombre de réfugiés augmente à une allure folle. En moins de 24 heures, ce sont au moins 150 000 personnes supplémentaires qui ont fui l'Ukraine, principalement pour la Pologne. À ce rythme, l'ONU estime que la guerre pourrait créer plus de 4 millions de réfugiés. C'est presque 10 fois plus que ce qu'a accueilli l'Europe en 2020. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Et cette fuite massive ne risque pas de faiblir au vu de la situation dans le pays. Depuis 2 jours maintenant, une ville semble particulièrement ciblée par les forces russes. Kharkiv, deuxième agglomération du pays. Bonjour Valérie Krova.
Bonjour.
De la rédaction internationale de Radio France. Après d'intenses bombardements hier à Kharkiv, y compris en centre-ville, des troupes russes supplémentaires ont débarqué ce matin par avion.
Oui, et c'est l'information de la nuit, peut-être même un tournant dans cette guerre. Des troupes aéroportées ont débarqué dans la nuit à Kharkiv. Ce sont les forces armées ukrainiennes qui l'affirment dans un communiqué sur Telegram. Toujours de sources militaires ukrainiennes, il y a des combats dans l'est de la ville. Écoutez Alice, une habitante de Kharkiv que je viens de joindre par téléphone.
Il y a quelques dizaines de minutes, quelques frappes aériennes se sont produites au centre de Kharkiv. Je ne sais pas comment ça s'appelle, la vague explosive, peut-être, oui, était si forte que les portes de mon appartement tremblaient. Et après cette explosion, il y a une incendie de quelques immeubles dans le centre. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je vois cet incendie de mon appartement, de ma fenêtre. Donc, le centre est toujours une zone très menacée.
Voilà, il faut rappeler que Kharkiv est ciblé depuis plusieurs jours par d'intenses bombardements. Hier, des frappes ont visé notamment le siège de l'administration régionale sur la place de la Liberté et un immeuble faisant au moins 18 morts des civils, ce qui a conduit le président Zelensky à accuser la Russie de crimes de guerre. Il ne reste pratiquement plus de zone à Kharkiv où un obus n'a pas encore frappé, a souligné le conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien.
Valérie Krova, quant au gigantesque convoi militaire repéré tout près près de Kiev, 60 km de long. Il semble ce matin à l'arrêt, au point mort, notamment en raison de problèmes logistiques, selon le renseignement américain.
Et face à cette invasion russe, l'image de la nuit nous vient des États-Unis.
Les parlementaires américains debout pour une ovation en hommage au peuple ukrainien. Joe Biden a prononcé devant le Congrès son discours sur l'état de l'Union. Le président américain qualifie Vladimir Poutine de dictateur plus isolé que jamais. Et il annonce de nouvelles sanctions. Interdiction des vols d'avions russes aux États-Unis et les biens des oligarques sont aussi dans le viseur.
Ce soir, je dis aux oligarques russes et aux dirigeants corrompus qui ont soutiré des milliards de dollars à ce régime violent, c'est fini. Nous nous joignons à nos alliés européens pour trouver et saisir leurs yachts, leurs appartements de luxe, leurs jets privés. Nous venons pour vos gains mal acquis.
Joe Biden, cette nuit devant le Congrès américain à Washington. Les grandes entreprises américaines, elles aussi, prennent leur distance avec Moscou les unes après les autres. Boeing suspend son soutien opérationnel aux compagnies aériennes russes. Du côté des géants pétroliers, ExxonMobil renonce à tous ses investissements dans le pays. Le pétrole, justement, et la flambée des cours, c'est l'une des conséquences mondiales déjà de cette guerre. Le baril de Brent atteint les 110 dollars en bourse ce matin, au plus haut depuis 8 ans. Alors comment tenter de calmer cette envolée? L'OPEP, qui réunit les pays producteurs, se réunit en urgence dans quelques heures.
Et au-delà des frontières ukrainiennes, la solidarité s'organise.
Les expatriés ukrainiens sont bien sûr très mobilisés partout dans le monde pour aider leurs proches, leur envoyer des vivres, du matériel médical, à l'image de l'association Plast à Paris. Ce sont en fait les scouts ukrainiens de Paris. Depuis le week-end dernier, ils gèrent l'afflux des dons de particuliers dans un local d'une église orthodoxe du 19e arrondissement. Rémi Brancato.
À l'entrée de ce garage, des Parisiens défilent, sacs à la main.
J'ai encore d'autres compresses, des antidouleurs.
Merci voilà. Beaucoup.
Ce local de l'église orthodoxe ukrainienne du 19e arrondissement s'est transformé en fourmilière.
Ici, c'est plutôt tout ce qui est alimentation. Et là-bas, on a des sacs de couchage, des couvertures, des vêtements.
Au téléphone, la famille d'Ariane Layuk, lycéenne de 16 ans, lui a décrit la guerre et les pharmacies vides.
On nous apporte beaucoup de médicaments parce que c'est vraiment la première nécessité. Parce qu'il y a vraiment une crise de médicaments en Ukraine. Je passe toutes mes journées ici. Si je sais que je peux aider, je le fais.
À l'entrée, une jeune femme ne lâche pas son portable.
Ça n'arrête jamais le téléphone?
Non, il y a beaucoup de personnes que je ne peux pas répondre.
Olenka Bondar, 30 ans, ne dort que 3 heures par jour depuis jeudi. Elle coordonne les dons. Deux camions partent chaque jour pour la Pologne, près de la frontière. D'autres acheminent ensuite médicaments, casques et vêtements jusqu'en Ukraine pour les civils et notamment ceux qui ont pris les armes.
On a des amis qui sont au front, mais ils ne sont pas officiellement l'armée. Il fallait faire quelque chose. J'ai appelé mes parents et mon père m'a demandé « Mais pourquoi tu pleures ?» J'ai dit « Bah ouais, parce que je m'inquiète. » Mon père m'a répondu « Bah oui, mais nous sommes encore vivants. Ils ont beaucoup d'espoir. » Et ils savent que l'Ukraine et l'Europe, on va gagner.
Un espoir que partage Olenka qui participe avec cette collecte, dit-elle, à l'effort de guerre.
Les scouts ukrainiens de Paris qui accueilleront tout à l'heure un 13-14 spécial en direct avec Bruno Duvic, car France Inter organise sa journée de solidarité avec les Ukrainiens. Témoignages, écho de la mobilisation dans nos programmes, nos journaux, qui relaient aussi les messages de soutien nombreux. Ces marques d'amitié, elles viennent aussi parfois de certains expatriés russes opposés à la guerre. Mathilde Imberti a rencontré deux d'entre eux à Lyon. Reportage.
Ilia, étudiant de 22 ans, organise des manifestations contre la guerre, main dans la main avec les Ukrainiens.
Personnellement, je sors pour manifester parce que je représente mon opinion en tant que citoyen russe qui est responsable, mais aussi des millions russes qui ne peuvent pas sortir manifester parce qu'ils peuvent mettre leur vie en danger.
Roman, son ami, évoque d'autres gestes de solidarité.
On a des amis russes à Lyon qui hébergent, par exemple, les Ukrainiens qui n'arrivent pas à rentrer chez eux. C'est les petites choses qu'on peut faire.
S'exposer n'est pourtant pas sans conséquence, craint le jeune agent immobilier, 24 ans. Il a pris le micro devant la foule lors du dernier rassemblement place Bellecour.
Je ne sais pas quand je vais rentrer, mais j'ai vraiment peur que je puisse avoir des sanctions parce que je pense que les Russes, eux, voient tout, entendent tout.
Paradoxe pour ces jeunes Russes, il leur faut se justifier.
J'étais hier à un magasin pour acheter le parquet. Quelqu'un attend l'accent, ils disent « Vous êtes russe ?» et disent tout de suite que pourquoi vous faites la guerre. Il faut chaque fois expliquer à chaque personne. Mes parents, par exemple, ils ont une voiture avec les plaques russes. Ils veulent changer aussi parce qu'on ne sait pas qui réagit comment. Mais on est toujours avec les Ukrainiens parce qu'on soutient l'Ukraine. C'est le plus important, je pense.
Dimanche, de nouveau, Ilia et Roman manifesteront contre l'invasion russe. Drapeau ukrainien sur les épaules. épaules. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
La situation en Ukraine et la réponse des Occidentaux. On y revient aussi dans quelques minutes avec vos deux invités, Jérôme.
Oui, Camille Grand, secrétaire général adjoint de l'OTAN, et Pierre Servan, spécialiste des questions de défense.
Si vous voulez voter à la présidentielle, c'est le dernier jour pour s'inscrire en ligne sur les listes électorales. Passé ce délai, vous pourrez encore le faire jusqu'à vendredi soir, mais uniquement en version papier, en remplissant un formulaire en mairie.
Moins de 25 000 patients sont désormais hospitalisés pour Covid en France.
Et 2400 réanimations, la baisse se poursuit nettement. Deux ans de pandémie qui ont malheureusement profité au trafic de médicaments. Ils représentaient déjà 4 milliards d'euros au niveau mondial avant l'épidémie. Et ça ne s'est pas arrangé depuis, constat dressé par la gendarmerie nationale. Elle a convié cette semaine les représentants de 36 pays à Paris pour coordonner la lutte contre ce trafic des produits de santé. C'est la grande priorité désormais d'Europol, Sophie Constanzer.
En deux ans, près de 50 millions de médicaments en tout genre ont été saisis dans le cadre de l'opération pilotée par Europol et qui associe une trentaine de pays. Et la part de produits saisis liés au Covid est considérable, souligne le patron d'Europol, le général Jean-Philippe Lecouf.
Le Covid, ça a été une opportunité incroyable pour les organisations criminelles, que ce soit des masques, que ce soit des faux vaccins, que ce soit des faux tests PCR qui ont pu être saisis. 36 millions.
Principale difficulté du trafic de médicaments pour les enquêteurs, il se fait à 95% sur Internet. De quelques produits dopants livrés dans des enveloppes à des millions de masques commandés en ligne. Mais l'inquiétude portait sur les vaccins, selon le général Sylvain Noyer, qui dirige l'Office français de lutte contre les atteintes à la santé publique.
On n'a pas identifié sur le territoire de vaccins contrefaisants ou de médicaments qui, là également, étaient contrefaisants. En revanche, Interpol a lancé un certain nombre d'alertes parce que ça a été identifié dans d'autres pays, à la fois en Europe et puis surtout en Amérique du Sud.
Et si la grande majorité des produits saisis en Europe viennent d'Asie, 5 laboratoires clandestins de production de médicaments ont été démantelés l'an dernier dans l'Union européenne grâce à Europol.
Sophie Constanzer, c'est une grande première face à un fléau qui menace la biodiversité. L'ONU doit lancer aujourd'hui des négociations sur un traité international contre la pollution plastique. Deux ans de pourparlers vont s'ouvrir aujourd'hui au Kenya où se réunit en ce moment l'Assemblée pour l'environnement des Nations Unies. L'objectif, c'est d'aboutir à un texte juridiquement contraignant d'ici à 2024 pour limiter la production et l'usage du plastique. Et pour les ONG, c'est une très bonne nouvelle, Célia Kiré.
Un accord mondial sur le plastique qui obligerait les États à en produire moins ou à le recycler davantage. Ce serait en effet une grande avancée pour Diane Beaumenet de l'ONG Surfrider, à condition que les mesures soient contraignantes.
Pour nous, ce serait un traité historique, vu qu'il y aurait une reconnaissance de la communauté internationale sur le fait que le plastique est un facteur de pollution globale.
Ça pourrait contraindre les pays à avoir des objectifs de réduction de la production, et donc les pays devraient imposer aux producteurs de réduire la production de plastique avec des objectifs chiffrés, à la fois par pays et, on l'espère, un objectif global à l'échelle internationale.
Et pour cette ONG, cela suppose également d'arrêter de produire des emballages qui ne se recyclent pas. Pour François Galgani, océanographe et spécialiste de la pollution plastique à l'Ifremer, cet accord peut permettre de limiter la surconsommation ou d'étendre certaines interdictions de plastique à usage unique.
Il y a des solutions qui sont locales. On peut interdire de fumer, comment dire, sur une plage et il n'y aura pas de mégots, c'est très bien. Il y a des solutions qui ne peuvent être que globales, parce que la pollution marine, par exemple, ou même la pollution par les plastiques dans l'atmosphère, les microplastiques, elle est internationale et sans accord international, il n'y aura aucune solution possible.
Ce futur traité pourrait être adopté en 2024. Plus les mesures seront contraignantes, plus les discussions seront difficiles. En 2019, sur 460 millions de tonnes de plastique produites dans le monde, à peine 10% étaient recyclés.
En Coupe de France de football, la logique a fini par l'emporter. Victoire de Nice hier soir face aux amateurs de Versailles, 2-0. Les Niçois décrochent donc leur ticket pour la finale de la compétition. On connaîtra leur adversaire ce soir à l'issue de l'autre match entre Nantes et Monaco.
Et au cinéma, qui remportera la bataille des super-héros ?
Voilà 11 semaines que Spider-Man cumule les entrées au box-office, mais il a peut-être du souci à se faire, car Batman fait son grand retour aujourd'hui. Cela fait 10 ans que l'homme chauve-souris n'avait pas eu droit à un film pour lui tout seul. Eh bien, c'est corrigé avec The Batman, un titre sobre pour le nouveau film de Matt Reeves. Cette fois, c'est l'acteur Robert Pattinson qui enfile le costume d'un super-héros plus sombre que jamais, Alexis de Meyer.
La pluie est diluvienne en cette nuit d'Halloween à Gotham City. Malgré le chaos qui règne dans cette ville gangrénée par la corruption, une foule masquée et déguisée défile dans les rues. Costumé lui aussi, Batman combat sans relâche les parrains du crime organisé, mais bientôt c'est un autre méchant qu'il va devoir affronter, le sphinx. Ce nouvel opus de la saga Batman parle de radicalisation sur Internet, de terrorisme et de populisme. Le scénario s'empare aussi habilement du traumatisme de l'ouragan Katrina. Ici, Robert Pattinson incarne un Batman crépusculaire, bien épaulé par Zoé Kravitz en Catwoman et Colin Farrell en Pingouin. Dommage que la mise en scène de Matt Reeves manque de subtilité. Ses clins d'œil à Sergio Leone ou au peintre Edward Hopper sont par exemple trop appuyés. La comparaison avec la trilogie de son illustre prédécesseur Christopher Nolan ne joue pas en sa faveur, même si ce Batman à la sauce Reeves reste un divertissement très efficace et sacrément spectaculaire.
Et c'est donc en salle aujourd'hui. Et puis vous ne connaissiez peut-être pas son visage, mais sa voix, oui, à coup sûr. On apprend ce matin la mort de Dominique Paturel, la voix française de JR dans Dallas.
Bonjour, ici JR Ewing. Très bien, merci. Vous voulez bien me donner le rendement du Ewing 23? Ah, vous faites 5000 barils par mois.
14 saisons quand même pour cette série mythique des années 80, mais le comédien avait aussi joué dans plus de 80 pièces de théâtre, notamment sous la direction de Jean Villard. Il s'éteint à 90 ans.
Et doublé bien d'autres acteurs, le roi du doublage, Dominique Paturel. Merci pour ce journal, Alexis Morel. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
Stéphanie, la journée se déroule le plus souvent sous un ciel chargé.
Oui, et sur le Languedoc-Roussillon, ce sont des entrées maritimes qui couvrent le ciel et apportent quelques gouttes. Sur le reste du pays, c'est une nouvelle perturbation qui s'installe, surtout active au sud de la Loire, même si quelques passages pluvieux toucheront la Bretagne, la Normandie et les pays de la Loire ce matin. En Nouvelle-Aquitaine, les pluies matinales seront suivies par des averses cet après-midi, avec même des risques d'orages près des Pyrénées. Cet après-midi encore, les pluies régulières vont se propager vers les Pyrénées, le Limousin et l'ouest du Massif central, offrant de la neige sur les Pyrénées, des 1600 mètres d'altitude. Quelques coins de ciel bleu parviendront tout de même à percer. On les trouve ce matin sur la façade est, mais uniquement sur les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse cet après-midi.
Avec des températures assez homogènes.
Après une matinée encore fraîche à l'est, entre 0 et moins 3 degrés, mais plus douce sur l'ouest avec 3 à 8 degrés. Les températures maximales évolueront en général entre 7 et 15 degrés. Le quart sud-ouest reprend doucement des valeurs de normale de saison, 13 à 15 degrés. Hier, on frôlait les 20 degrés. Partout ailleurs, vous oscillez entre 9 et 12 degrés, 9 à Amiens et Aubenas, 12 à Dijon et Paris, 14 à Cahors et Marseille.
Merci Stéphanie, à tout à l'heure. Il est 8h17, géopolitique.